Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barge, pour vous présenter cette édition du 18 juillet 2018. Démantèlement d'une cellule terroriste au Burkina Faso avec une soixantaine d'arrestations. La cour d'appel de Dakar a rejeté la demande de remise en liberté du maire Khalifa Sall, condamné pour détournement de fonds publics. L'Afrique du Sud célèbre le Mandela Day en hommage à l'icône de la lutte contre l'apartheid.
Mandela représente véritablement un monument, un repère et une chance pour les jeunes de savoir s'investir, se sacrifier.
19 morts et une trentaine de disparus dans le naufrage d'une embarcation de migrants au large de Chypre. Et juste après le journal L'économie et les sports avec la défaite de l'AS Vita Club en Coupe de Confédération. Le maire de Dakar reste en prison malgré l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Le juge Demba Kandji, premier président de la Cour d'appel de Dakar, a décidé de rejeter la demande de liberté d'office pour Khalifa Sall et ses co-détenus. Selon le juge, la Cour communautaire de la CEDEAO n'est pas une cour fédérale. On écoute notre correspondant à Dakar.
Condamné à 5 ans ferme, le maire de Dakar reste donc en prison en attendant l'issue de son procès en appel. La cour d'appel de Dakar a rejeté la demande de liberté d'office de Khalifa Sall et la nullité de la procédure pour détention arbitraire. Le premier président de la cour d'appel considère que la cour de justice de la CEDEAO n'est pas une cour suprême fédérale au-dessus des juridictions nationales et ses décisions n'ont pas d'impact sur les décisions des tribunaux des États membres. Il a ainsi débouté la défense et ordonné la poursuite du procès en appel du maire de Dakar et de ses co-détenus. Cette décision du tribunal intervient au lendemain de la volte-face spectaculaire du procureur général. Ce dernier avait plaidé pour la libération du maire de Dakar avant de se rétracter à travers une demande écrite adressée au premier président de la cour d'appel. À l'annonce du verdict, les partisans de Khalifa Sall ont semé le trouble, obligeant les gendarmes à évacuer la salle d'audience. De leur côté, les avocats du maire de Dakar ont annoncé un pourvoi en cassation pour contester le maintien de leur client en prison. À Dakar, Seydina Ababey pour VOA Afrique.
En RDC, au moins 11 personnes sont mortes et 15 autres portées disparues après le naufrage d'une embarcation sur le fleuve Congo. L'embarcation motorisée surchargée a chaviré dans la nuit de lundi à mardi, selon Sabrina Dako, administratrice du territoire de Bassoko dans la province de Tchopo. Cette embarcation, au bord de laquelle voyageaient 98 personnes, naviguait de nuit sans lumière et a heurté une grosse pierre avant de chavirer. À Kinshasa, l'Assemblée nationale et le Sénat congolais sont convoqués en congrès demain pour suivre un message à la nation du président Joseph Kabila selon une décision des deux chambres à 6 jours du dépôt des candidatures à la présidentielle. Il y a une semaine, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait indiqué que le président Kabila allait annoncer une série de décisions importantes. Démantèlement de bases de groupes terroristes dans le nord du Burkina Faso. Une soixantaine de suspects sont actuellement détenus. Les détails avec Bagassi Koura.
Selon un communiqué de l'état-major des armées, les unités antiterroristes ont interpellé une centaine d'individus suspects, résultat d'une série d'opérations menées depuis le 8 juillet dans le nord du pays, frontalier avec le Mali et le Niger. Après vérification, 60 d'entre eux ont été transférés au service d'investigation de la gendarmerie et les autres ont été relâchés, annonce le dit communiqué. Des explosifs, des produits de contrebande et autres matériels servant à la fabrication d'engins explosifs ont également été saisis lors de ces opérations qui ont nécessité un appui des forces aériennes. L'armée annonce avoir également enregistré 3 blessés qui ont été transférés et pris en charge par les services de santé des armées. Par ailleurs, le chef de la commune de Hokuluru, située dans la même région du nord, a été exécuté à l'entrée de la ville de Baraboulé dans la nuit de mardi à mercredi, selon un communiqué du ministère de la Sécurité. Il avait été enlevé le 7 juillet dernier par un groupe d'hommes armés.
Au Nigeria, 22 djihadistes présumés ont été arrêtés et présentés au public par les forces de l'ordre à Maïdougouri dans l'état de Borno. 8 sont soupçonnés de lien avec l'enlèvement il y a 4 ans de plus de 200 lycéens à Chibok. Les 14 autres sont soupçonnés d'avoir participé à la préparation d'attentats suicides dans plusieurs villes du nord du pays. Selon la police, ces hommes, tous originaires de la région de Bama, ont été arrêtés début juillet dans les états de Borno et de Yobe. Le premier vol commercial en 20 ans entre l'Éthiopie et l'Érythrée a relié Addis Abeba et Asmara. Nouvelle étape de la réconciliation entre les deux pays. Les passagers ont dansé et chanté à bord de l'appareil après son atterrissage. L'oiseau de paix vient d'atterrir à Asmara, annoncé sur Twitter Ethiopian Airlines. Une cérémonie s'est tenue à l'aéroport pour marquer la poursuite du dégel en cours depuis 6 semaines. Le gouvernement gabonais a instauré un système de bons de caisse pour débusquer les fonctionnaires fictifs de bons que les vrais fonctionnaires tentent de récupérer avec difficulté depuis lundi. Des centaines de salariés se sont rendus sur les sites de retrait de ces bons à Libreville. Un site internet a également été mis en place pour pouvoir retirer ces documents qui permettent de toucher son salaire à la banque. L'opération durera jusqu'au 24 juillet, indiqué le Premier ministre Emmanuel Issoze Ngondé. Nous y reviendrons dans les dossiers d'actualité. L'Afrique du Sud a salué ce mercredi l'héritage de Nelson Mandela avec de vibrants hommages de l'ancien archevêque Desmond Tutu et de Barack Obama, l'icône de la lutte contre l'apartheid qui aurait eu 100 ans ce 18 juillet. Chaque année, le Mandela Day, qui coïncide avec la naissance de Madiba dans le village de Mvezo, est célébré dans la nation arc-en-ciel. Agissez, inspirez le changement, faites de chaque jour un jour Mandela, exhorte la fondation qui porte son nom. Pour le centenaire de sa naissance, elle a invité l'ancien président américain Barack Obama.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Donald Trump continue de se défendre après les critiques dont il fait l'objet depuis le sommet avec son homologue russe Vladimir Poutine. Après la rectification hier de ses propos, le président américain estime que sa rencontre avec le président russe est une réussite. Il explique aussi qu'il est le président le plus ferme qui soit avec la Russie. Abdourahman Dia nous en dit plus.
La rencontre de lundi avec Poutine pourrait, sur le long terme, être couronnée d'un succès encore plus grand que les entretiens avec l'OTAN, qui ont été un triomphe évident, a estimé Donald Trump dans une série de tweets. Il a aussi affirmé que la Russie a accepté d'aider les États-Unis sur la Corée du Nord. Cette déclaration du président américain intervient moins de 24 heures après être revenu sur des propos qui avait scandalisé la classe politique américaine car il semblait mettre en doute l'ingérence russe dans l'élection américaine de 2016. Lors de sa conférence de presse avec Vladimir Poutine lundi, Donald Trump avait dit n'avoir aucune raison de ne pas croire les dénégations du président russe sur l'ingérence de Moscou dans la présidentielle de 2016, pourtant certifiée par le renseignement américain. Face aux nombreuses critiques venant de tous bords, y compris des républicains, il a dû organiser une mise au point au cours de laquelle il a reconnu s'être mal exprimé. Il a également assuré avoir confiance aux services de renseignement américains.
Au moins 19 personnes sont mortes et une trentaine portées disparues après le naufrage ce mercredi au large de Chypre d'une embarcation transportant des migrants. Plus de 100 passagers de cette embarcation qui en transportait environ 150 ont été secourus. Des gardes-côtes dépêchés par Chypre Nord et par la Turquie s'activent pour les recherches. L'embarcation transportait des Syriens selon l'agence de presse turque DH. Le gouvernement allemand veut accélérer les renvois de demandeurs d'asile originaires d'Algérie, du Maroc et de la Tunisie en les inscrivant au même titre que la Géorgie sur la liste des pays sûrs. Le projet de loi a été adopté ce mercredi en Conseil des ministres. Les précisions avec Irénée Hermann Humbo.
C'est la deuxième tentative des autorités allemandes après qu'un premier projet de loi a été rejeté l'an dernier par la chambre haute du Parlement, le Bundesrat. Le gouvernement veut inscrire ces trois pays du Maghreb et l'ancienne République soviétique sur la liste des pays dits sûrs, comme c'est déjà le cas pour le pays des Balkans non membre de l'Union européenne. Les services d'immigration allemands pourront alors rejeter quasi automatiquement les demandes d'asile de leurs ressortissants. Berlin justifie cette décision par le fait que les demandes d'asile en provenance de ces pays sont déjà toutes rejetées à plus de 99% pour la Géorgie et l'Algérie. Seuls 2,7% des demandes d'asile de Tunisiens et 4,1% des requêtes de Marocains ont reçu une réponse positive des autorités allemandes, notamment en 2017. Le ministère de l'Intérieur, aux mains du très conservateur bavarois Horst Seehofer, espère que cette mesure permettra une diminution drastique des demandes d'asile émanant de ces quatre pays.
Un conseiller économique du président Trump a affirmé que la balle était dans le camp de la Chine, dans le bras de fer commercial qui oppose Washington à Pékin. Je crois que la Chine voudrait un accord, mais le président Xi ne le souhaite pas pour l'instant, a assuré Larry Kudlow sur la chaîne CNBC. Il doit agir, nous l'attendons, la balle est dans son camp et la politique de la surenchère n'est la voie favorite de personne, a-t-il ajouté, affirmant que le président Trump était très mécontent de la Chine à propos de ses soi-disant négociations et qu'il continuait de maintenir la pression. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Raissa Girounda.
Au Cameroun, la crise anglophone a un très mauvais impact sur l'économie de la région du sud-ouest anglophone, épicentre des combats entre l'armée et les séparatistes, selon l'ONG camerounaise Human is Right. Les plantations d'huile de palme de l'entreprise publique Pamol ont été désertées dans le département d'Indiane et les villages qui produisent le cacao et le café sont tous à l'arrêt parce que les villageois ont abandonné leur culture. Le Fonds monétaire international a relevé légèrement ses prévisions de croissance pour l'Afrique subsaharienne en 2019 à 3,8% contre 3,7% lors de sa précédente estimation datant du mois d'avril dernier. Le relèvement des prévisions de croissance pour 2019 s'explique essentiellement par la hausse des prix des matières premières et l'amélioration des perspectives économiques au Nigeria. La Chine a annoncé être contrainte de prendre des mesures de représailles supplémentaires contre les États-Unis afin de protéger ses droits et intérêts face aux taxes douanières américaines visant l'aluminium et l'acier importés. Christine Lagarde, directrice générale du FMI, a noté que les États-Unis sont les plus exposés aux conséquences de la guerre commerciale qui pourrait coûter des centaines de milliards de dollars au PIB mondial dans les prochaines années.
À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Troisième journée de la Coupe CAF, l'AS Vita Club est tombé au Ghana.
Fraîchement sacré champion de la RDC, les hommes de Florent Ibengué ont été surpris 2-1 sur la pelouse d'Adouana Star. Adji à la troisième et Yahya Mohamed, 7 minutes plus tard, ont marqué rapidement pour infliger sa première défaite à Vita Club malgré la réduction du score de Muzenga à la 26e. Dans le groupe C, invaincu jusque-là, Williamsville d'Abidjan n'est pas parvenu à enchaîner. Les Ivoiriens sont tombés 1-0 au Nigeria contre Enyimba. Ibrahim Mustapha a été l'unique buteur de la rencontre.
Marché des transferts, Kazri a rejoint Saint-Etienne et Bissouma Brighton.
Le jeune international malien, 21 ans, a quitté Lille pour le club anglais de Brighton. Yves Bissouma a signé un contrat de 5 ans. Cette opération devrait rapporter environ 20 millions d'euros au LOSC, dont 3 millions de bonus. L'attaquant international tunisien Wabi Kazri, 27 ans, a lui signé pour 4 ans à l'AS Saint-Etienne jusqu'en 2022 donc. La saison dernière, il avait été prêté par Sunderland à Rennes, où il a joué 29 matchs et inscrit 11 buts. Il totalise 40 sélections et vient de disputer le mondial en Russie.
Basket ici en NBA, les Golden State Warriors ont prolongé le contrat de leur entraîneur.
Steve Kerr, l'homme qui a permis à l'équipe californienne, championne en titre, de conquérir 3 sacres en 4 ans, a été prolongé de 4 ans. La durée du nouveau contrat et les émoluments n'ont pas été divulgués, mais selon certaines sources, il ferait de lui l'un des entraîneurs les mieux payés de la NBA.
On termine par du cyclisme avec le coup double pour Geraint Thomas à la 11e étape du Tour de France.
Le Britannique a enlevé l'étape du jour et a revêtu le maillot de leader dans la station alpestre de la Rosière. Thomas s'est imposé en solitaire dans cette première arrivée au sommet avec 20 secondes d'avance sur le Néerlandais Tom Dumoulin et son coéquipier, le Britannique Chris Froome.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. fin au Niger ce mercredi d'une visite de 2 jours du président du Parlement européen, Antonio Tajani. La coopération entre le Niger et l'Union européenne, notamment en matière de sécurité et de lutte contre l'immigration irrégulière, était au centre des discussions. Revenons sur cette rencontre avec notre correspondant Abdoul Razak Idrissa.
Au-delà de l'amélioration de l'orientation stratégique du G5 Sahel, l'organe ainsi mis en place et regroupant les parlements des 5 pays membres aidera également, selon le communiqué final, dans l'appropriation par les populations des États membres des objectifs de l'organisation créée en 2014. Ousseyni Tini, président du Parlement nigérien.
Nous sommes tous d'avis qu'une structure interparlementaire vienne compléter les organes déjà opérationnels du G5 Sahel. À cet organe, j'estime qu'il faudra attribuer une vocation de veille, de conseil, d'information pour mieux créer une synergie des actions visant à assurer la pérennité des programmes de développement et de sécurité dans cette zone. En effet, comme nous le savons tous, le terrorisme et le surcroît de pauvreté qu'il engendre concernent d'abord les peuples. Et pour le combattre, les représentants de ce peuple doivent être associés à tous les niveaux. Il s'agit là d'une évidence logique.
L'architecture institutionnelle du G5 Sahel est ainsi complète, d'où la satisfaction des États membres. Salif Temtoro, vice-président du Parlement burkinabé.
C'est le maillon qui manque dans ce regroupement et dans la lutte contre le terrorisme dans notre région. C'est donc ce maillon du Parlement pour accompagner non seulement l'exécutif, mais aussi accompagner et suivre et contrôler l'apport de nos partenaires dans cette lutte-là. Et les présidents donc, des parlements ont donc décidé de se retrouver, d'échanger et de voir quel pourrait donc être leur apport pour contribuer donc à la lutte contre le terrorisme et le sous-développement dans notre sous-région.
La création de cet organe de contrôle est vivement saluée par le président en exercice du Conseil des ministres de la Défense du G5 Sahel, le Nigérien Kala Moutari.
En tant que représentant du peuple, ils ont le droit et le devoir d'avoir un droit de regard sur les activités qui se passent dans ce domaine. Vous savez que ce sont les enfants de nos pays qui sont mobilisés pour faire la guerre. Ce sont les richesses de nos pays qui sont investies dans la sécurité. C'est des espaces, c'est des frontières qui sont supprimées pour permettre les actions militaires dans nos pays. Il va de soi que le représentant du peuple, que sont les députés, ait un droit de regard sur le contrôle de richesses, sur la vie de nos citoyens, sur le contrôle de nos frontières. Et il est normal aussi que les gouvernants aient cette caution ou cette dimension de légitimité que les parlementaires pour accompagner cette action. Nous sommes contents aujourd'hui de constater que nos parlementaires s'inscrivent dans la démarche du gouvernement et qu'ils accompagnent cette initiative commune des pays du G5 Sahel.
Abdoul Razak Idrissa, Niamey, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Le gouvernement gabonais a instauré un système de bons de caisse pour débusquer les fonctionnaires fictifs. Des bons que les salariés de l'État tentent de récupérer depuis 3 jours, non sans difficulté. Cette mesure n'est d'ailleurs pas vue d'un très bon œil par certains syndicats, selon Jean-Olivier Makaya, président des syndicats du groupe des communicateurs de la radio-télévision du Gabon. Il est joint à Libreville par Ekiabadou.
Si je me réfère à ce qu'a dit le gouvernement, c'est un recensement qui ne dit pas son nom. Selon eux, ils constatent qu'il y a des fonctionnaires d'État qui perçoivent 2 salaires. De l'autre côté, il y a des personnes qui sont retraitées mais qui continuent à percevoir des salaires. Et en plus, il y a des gens qui ne travaillent plus mais qui, chaque fin du mois, se pointent à la banque. Pour essayer de vérifier tout ça, ils ont instauré un système de fiche de présence exceptionnelle qui doit être visé par les responsable et renvoyé au ministère de chaque structure pour signature par le secrétaire général. Et ce n'est qu'après cette signature que vous pourrez aller dans les sites qu'ils ont installés pour retirer votre bon de caisse et puis les banques sont représentées si vous devez aux banques. Vous leur donnez un coupon et ils saisissent, soit ils valident.
D'un point de vue pratique, est-ce que cela vous semble possible et réalisable ?
on nous demande un peu trop, parce que hormis, comment dirais-je, l'attestation de présence exceptionnelle, vous devez être également muni de l'attestation de prise de service, donc la période à laquelle vous êtes rentré dans l'administration et votre pièce d'identité. Depuis plusieurs années, nous n'avons pas cessé, l'État n'a pas cessé de nous faire remplir ce genre de documents. Il y a quelques mois, ça a été fait. Ils ont engrangé plus de 400 millions. Seulement, on ne sait pas où va cet argent par la suite.
Le gouvernement a-t-il besoin de ce recensement?
Je pense que si on avait chez nous une administration organisée, on n'avait pas besoin de ça, parce qu'il y a la fonction publique. Il y a dans chaque département ministériel un département de ressources humaines. Quel dans deux ans, il va être retraité, quel est déjà retraité, et puis avoir un fichier. Donc on n'avait pas besoin de faire balader le travailleur gabonais pour un soi-disant recensement que chaque administration aurait pu faire en toute quiétude.
Alors, selon vous, quelle autre solution? Est-ce qu'il y a peut-être une défaillance pour qu'on puisse venir quand même à ce système de bons de caisse?
Effectivement, il y a une défaillance. Le système est malade dans ce pays. Il y a beaucoup qui se disent fonctionnaires alors qu'ils ne sont pas. Il y a beaucoup de personnes décédées mais dont les salaires continuent à passer. Il y a également ceux qui ont des doubles salaires. Donc ça leur a permis, ça permet au gouvernement de regarder tout ça. Et puis il y a eu une bonne manne, une bonne enveloppe qui est revenue à l'État. Comme hier, on était reçu par le ministre de l'État de la Communication. Nous avons posé la question de savoir où va cet argent. Mais malheureusement, bon, c'est resté en suspension.
C'était Jean-Olivier Makaya, président des syndicats du groupe des communicateurs de la radio-télévision du Gabon.
La Voix d'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
L'Afrique salue aujourd'hui l'héritage de Nelson Mandela, icône de la lutte contre l'apartheid, qui aurait eu 100 ans ce 18 juillet. Irénée Herman Ungbo a joint l'ancien ministre béninois et écrivain, le professeur Albert Tv-Audrey, qui a côtoyé le héros sud-africain. Il revient ici sur l'héritage que Mandela a légué aux Africains.
C'est important pour nous aujourd'hui de commémorer la volonté, du refus de la lâcheté. Je pense que pour les Africains et pour l'humanité, Mandela représente véritablement un monument, un repère et une chance pour les jeunes de savoir s'investir, se sacrifier.
Est-ce que le combat pour la liberté et l'égalité que Mandela a mené toute sa vie est suivi aujourd'hui non seulement dans son pays, l'Afrique du Sud, mais aussi dans toute l'Afrique?
Je ne veux pas juger, mais je suis désolé de constater que beaucoup lâchent, acceptent l'argent, acceptent la facilité et que, véritablement, les droits de l'homme ne sont pas toujours en priorité. Or, ce qui enrichit un peuple, c'est le droit de l'homme debout. Et les Africains ont beaucoup souffert de l'esclavage, de la colonisation, de l'impérialisme. Mais ne désespérons pas. Il y a quelques-uns qui nous font honneur et donc je pense que ce n'est pas la peine de distribuer des prix. Déplorons et encourageons.
Alors, M. Tv-Audrey, vous qui aviez côtoyé Nelson Mandela dans vos nombreuses responsabilités au plan international, vous a-t-il inspiré à un moment donné de votre parcours?
Il m'a toujours inspiré. D'abord, son rôle dans l'éducation, l'importance qu'il a donné à l'éducation, l'importance qu'il a donné au refus de la facilité, l'importance qu'il a donné à une manière de quitter le pouvoir, de quitter le pouvoir. C'est important de surgir, agir et s'effacer pour que la génération qui vient puisse poursuivre afin de jeunes à monter sur les ponts des anciens pour voir plus loin que eux. Moi, je ne veux pas dire que moi, non, ce n'est pas intéressant, le moi. Ce qui est important, c'est que pour moi, ça a été un exemple qu'il fallait que j'aie dans la tête, dans le cœur, pour faire le peu que j'ai pu faire.
Parlons justement de la nouvelle génération. À votre avis, qu'est-ce que la jeunesse africaine doit-elle s'approprier aujourd'hui du combat de Nelson Mandela?
D'abord, l'éducation. On n'est pas libre des privilèges. On est libre parce qu'on s'est préparé à la liberté. On a refusé la facilité. Il y a d'abord ça. Ensuite, l'éducation permet d'agir, de mieux faire. Pas donner de place aux femmes parce que c'est les femmes. Point. Non, donner aux femmes qui méritent. Et donc, je leur apprends à mériter. C'est important. Première chose. Deuxième chose, savoir que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur, mais c'est le bonheur du peuple qui fait la joie de l'homme. C'est important. Je dois dire, le gouverneur de la Cour de France, Maduro, dit bien que les Africains ont gagné la Cour de France. C'est bon. Dans tous les domaines, nous devons montrer cet exemple-là. Il y a des Africains qui sont des scientifiques, il y en a qui sont des sportifs, il y en a qui brillent dans d'autres domaines. Nous pouvons briller autant que les autres.
Le professeur Albert Tv-Audrey était joint à Porto Novo.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Lutte contre le sida. La proportion de séropositifs qui ont accès au traitement n'a jamais été aussi élevée, mais un relâchement dans la prévention et la baisse des financements font craindre un rebond de l'épidémie. C'est ce qui ressort du dernier rapport de l'ONU Sida, selon lequel près de 3 séropositifs sur 5 dans le monde prennent des traitements antirétroviraux. Pour en savoir plus, Nicolas Pinault a joint Peter Guis, directeur de l'information stratégique et l'évaluation de l'ONU Sida.
Actuellement, nous estimons à quelques 36,9 millions de personnes qui vivent avec le VIH dans le monde. Moins de 1 million de personnes sont mortes à cause du sida. C'est le chiffre le plus bas qu'on a jamais estimé, mais en même temps, il est vrai que nous voyons qu'il sera difficile d'atteindre la cible qui est de moins de 5 000 morts à cause du sida d'ici l'année 2020. Pour la survenue de nouvelles infections, nous estimons qu'il y a eu en 2017 quelques 1,8 million de personnes qui se sont affectées par le VIH. Et plus grave, peut-être, on ne voit pas une diminution qui est assez rapide pour atteindre la cible qui est elle aussi de 5 000 nouvelles infections pour l'année 2020.
Quelle est la situation sur le continent africain?
Eh bien, la situation du sida, elle est un peu différente selon les régions en Afrique. La région la plus touchée en Afrique, c'est l'Afrique australe, où il y a des pays qui ont des prévalences de plus de 25% de leur population adulte. Et ensuite, l'Afrique de l'Est, qui a aussi des taux élevés de VIH. Et ensuite, il y a aussi l'Afrique de l'Ouest et du Centre, où nous voyons des taux de prévalence qui peuvent être assez faibles, comme par exemple au Sénégal, à peu près 1%, mais jusqu'à peut-être 5-6% pour des pays comme la Centrafrique ou bien le Cameroun. Et donc, quand nous voyons le progrès en tant que réduction de nouvelles infections, nous voyons que c'est la région de l'Afrique de l'Est et australe qui a progressé le plus. C'est-à-dire que c'est la région qui est le plus touchée, mais c'est elle aussi qui a fait le plus de progrès et qui a le plus fortement diminué la survenue de nouvelles infections et aussi la survenue de décès à cause du sida.
Où en est-on de la recherche? Quand un vaccin contre le sida sera disponible selon vous?
Les efforts pour trouver un vaccin continuent. Nous avons connu il y a quelques années un premier succès avec un vaccin qui avait pour la première fois démontré une efficacité. C'était un vaccin qui avait été testé en Thaïlande, efficace, mais malheureusement qu'à un niveau de à peu près une protection de 30%. Et donc nous avons actuellement de nouveaux essais qui sont en cours pour évaluer des vaccins dont on espère qu'ils auront une efficacité plus grande.
C'était Peter Guis, directeur de l'information stratégique et l'évaluation de l'ONU Sida.
Salut les amis, Roger Montou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook, tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. La mise en onde, c'était Michel Joseph, à la console Dan Crafton, à la présentation Nathalie Barge. Restons en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à tous en compagnie de Henri Francisque pour un rappel donc sur l'actualité. À très bientôt. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.